40 en temps universel.
Monnaie, transfert d'argent et paiement de factures, simple, rapide, économique, vous propose Appel sur l'actualité.
Appelez-nous, exprimez-vous.
33 9 693 693 70.
Pierre Pinto.
Et dans un instant, le débat du jour, cela fait 100 jours que Catherine Samba-Panza est à la tête de la transition en Centrafrique. L'occasion de faire le point sur le cap qu'elle donne à cette transition. Que pensez-vous de son action? Quelle doit être sa priorité? Nous en parlons ensemble dans quelques minutes. Mais avant cela, je vous le disais dans la première partie de l'émission, Valérie Gass du service politique de RFI est avec nous en studio. Bonjour Valérie.
Bonjour Pierre.
Vous êtes là pour répondre à une question au sujet de Manuel Valls. Une quarantaine de députés socialistes se sont abstenus sur le vote du plan d'économie de 50 milliards présenté par le Premier ministre Manuel Valls. Trois semaines avant, une dizaine de ces députés s'étaient déjà abstenus d'accorder leur confiance au Premier ministre. Bref, on assiste à une désaffection des députés socialistes. Lamine nous appelle de Banjul. Bonjour Lamine.
Bonjour Pierre et bonjour à tous les auditeurs de la RFI.
Alors, Valérie Gass, écoute votre question.
J'ai entendu sur RFI qu'il y a un écart de 40 députés entre la vote de confiance du Premier ministre français Manuel Valls et celle de son pacte de responsabilité dans un intervalle de 3 semaines.
Alors,
À cela, je voudrais savoir pourquoi cette différence de voix en 3 semaines. Et que reprochent les députés de la majorité socialiste abstenus à Manuel Valls?
Alors Valérie, comment expliquer ce désamour entre une partie des députés socialistes français et Manuel Valls, le Premier ministre?
Oui, Lamine a raison. Hein. On peut être étonné de voir en si peu de temps après la nomination de Manuel Valls à Matignon, l'émergence de ce qu'on peut presque appeler une opposition au sein du groupe socialiste à l'Assemblée nationale. Alors ce qu'il faut voir d'abord, c'est les éléments de contexte. Hein. L'arrivée de Manuel Valls est intervenue à un moment assez critique du quinquennat. La défaite, on peut même parler de débâcle, hein, du Parti socialiste aux élections municipales était attendue, mais elle a quand même représenté un vrai choc, notamment chez les députés. Et tout ce qui se passe maintenant, et notamment ces abstentions lors du vote sur le programme de stabilité, eh bien, c'est complètement lié à cet événement. Hein. Cette défaite, elle était due à quoi? Eh bien, à l'échec de la politique gouvernementale menée pendant 2 ans, échec notamment à inverser la fameuse courbe du chômage, comme François Hollande s'était engagé à le faire. C'est à provoquer un mécontentement et même de la colère chez les Français. Et ce mécontentement, eh bien, les députés socialistes ont voulu le relayer en demandant une réorientation de la politique économique et en manifestant leur hostilité au pacte de responsabilité et au plan de 50 milliards d'économies assimilées pour eux à une politique d'austérité. Alors une centaine de parlementaires ont demandé juste après les municipales un nouveau contrat de majorité, une manière pour eux d'essayer de peser plus sur les choix de l'exécutif. Et c'est dans ce contexte que le remplacement de Jean-Marc Ayrault par Manuel Valls n'a fait qu'alimenter un peu les craintes des députés concernant la politique gouvernementale. Manuel Valls, il incarne quoi? Plutôt la droite du PS, alors que les contestataires, eux, se trouvent plutôt à l'aile gauche du parti.
Alors pourquoi dans ce contexte, seule une dizaine de députés ont refusé de voter la confiance à Manuel Valls après son discours de politique générale?
Oui, et là, Lamine a bien noté ce qui s'était passé. Eh bien, pour le vote de confiance à Manuel Valls après sa déclaration de politique générale, le risque était trop grand de mettre le nouveau Premier ministre à peine nommé en péril. Lui refuser la confiance, c'était quoi? C'était provoquer une crise gouvernementale, obliger le président de la République à dissoudre l'Assemblée nationale, et en fait, il y aurait eu beaucoup de risque pour tout le monde, puisqu'il y aurait eu de nouvelles élections législatives. Et bien sûr, certains députés socialistes auraient pu perdre leur siège. Du coup, les seuls qui se sont abstenus à ce moment-là, c'était les plus réfractaires, les représentants de ce qu'on appelle la fameuse aile gauche du Parti socialiste, qui avaient déjà manifesté leur opposition à certains textes, qui s'étaient abstenus sur des textes importants, comme la ratification du traité européen ou l'accord sur le marché du travail, qui avait déjà fait débat au sein du Parti socialiste. Par contre, pour le vote sur le programme de stabilité, la situation était là totalement différente. Ce n'était plus à proprement parler un vote de confiance, c'était un vote indicatif et surtout il s'agissait là de valider concrètement les fameux 50 milliards d'économies et par voie de conséquence le pacte de responsabilité et les allègements de charges aux entreprises auxquels un grand nombre de députés socialistes s'opposent. Là, d'autres élus ont rejoint le mouvement et rejoint les positions des députés de l'aile gauche. notamment des proches de Martine Aubry, Jean-Marc Germain ou Christian Paul, qu'on a beaucoup entendu la semaine dernière pour expliquer les raisons de leur abstention. Alors, en ne votant pas ce fameux plan d'économie, ils ont dit vouloir envoyer un signal d'alerte au gouvernement sur le fond de sa politique. Et surtout, ils ont voulu montrer qu'ils étaient déterminés, qu'ils avaient un peu les moyens de se faire entendre. Ce message, pour répondre aussi à la question de la mine, eh bien, Manuel Valls en était bien évidemment le premier destinataire. C'est lui qui est monté en première ligne pour défendre le texte. C'est lui qui a travaillé à convaincre les députés. Il a beaucoup dramatisé l'enjeu de ce vote, même si ce n'était pas, je le rappelle, un vote de confiance à proprement parler. Il avait même fait quelques concessions la veille du vote, notamment sur les petites retraites pour Amadou et tout le monde. Et puis, il était allé à la réunion du groupe socialiste. Et il avait parlé, selon les participants, avec ses tripes. Il s'était mis au centre du débat pour empêcher les votes contre et les abstentions. Il n'a pas réussi, au moins sur le volet abstention, puisque avec 41 abstentions, c'est la première fois qu'il y en a autant depuis 2012, depuis l'élection de François Hollande au sein du groupe du Parti Socialiste. On voit donc que le noyau des frondeurs socialistes est maintenant plus large. Ils commencent à s'organiser. Il y a des réunions à peu près toutes les semaines entre eux. Et ça va donc obliger Manuel Valls à négocier sur tous les textes, notamment les textes budgétaires qui vont arriver avant l'été. Voilà, grosso modo. Mais ce qu'il faut pas oublier, c'est qu'on reproche des choses à Manuel Valls, mais que les députés frondeurs du Parti Socialiste en veulent surtout à François Hollande. Parce que c'est François Hollande qui a annoncé cette politique qui est assimilée à une politique d'austérité, ce plan d'économie. Et donc, voilà, c'est aussi le président de la République qui est dans la ligne de mire des députés socialistes.
La grogne des députés socialistes. Merci Valérie Gasse. Nous passons maintenant à la deuxième partie véritablement de l'émission et le débat au sujet des 100 jours de Catherine Samba-Panza à la tête de la transition en Centrafrique. Quels sont les grands défis qui l'attendent d'ici l'élection présidentielle programmée pour l'année prochaine? Quelle marge de manœuvre a-t-elle pour mener à bien sa politique? Je voudrais qu'on accueille pour commencer Karl. Karl qui nous appelle de Bangui. Bonjour Karl.
Bonjour Pierre.
Alors quel regard vous portez sur ce premier bilan, peut-être ces trois premiers mois de Catherine Samba-Panza à la tête de la transition? Il y a du bon et du moins bon, dites-vous.
Oui, effectivement, j'ai beaucoup plus me focaliser sur l'aspect sécuritaire. Près de 100 jours après la prise de pouvoir de Catherine Samba-Panza, la situation sécuritaire ne s'est pas encore améliorée. Alors, la seule alternative, à mon avis, qu'elle avait, la plus raisonnable, c'était en principe de réhabiliter une grande partie des FACA, des forces armées centrafricaines. Voyez-vous, Pierre, la République centrafricaine est dans une situation inédite. Pour la première fois de son histoire, la RCR se retrouve sans armée nationale. Malgré toutes les forces sur le territoire, c'est-à-dire la Sangaris et la MISCA, nous constatons que Bangui, qui fait à peine 80 km², n'arrive pas à être sécurisé. Alors c'est la question que les Centrafricains se posent dans leur grande majorité.
Alors c'est vrai que la reconstitution des forces armées a été l'une des priorités affichées au départ par les nouvelles autorités de transition. Cela dit, le jour d'une cérémonie de reconstitution, disons, des forces armées, on a assisté quasiment en direct à un lynchage d'un soldat suspecté d'être musulman par d'autres soldats. Ça a mis un coup d'arrêt à la restauration de l'armée.
Effectivement, il y a des pesanteurs sociologiques et ethno-anthropologiques dont il faudrait tenir compte, mais il faudrait comprendre aussi en partie les Centrafricains qui ont été poussés pendant 10 mois de gestion aventureuse de la Séléka. Bon, ceci dit, effectivement, des deux côtés, c'est-à-dire fait du côté des musulmans, il y a certains extrémistes, comme ceux du kilomètre 5 qui ont pris en otage toute la communauté musulmane, encore bandit dans ce quartier. Et de l'autre côté aussi, au niveau de la milice anti-Balakaya, des extrémistes. Justement, Catherine Samba-Panza aurait dû justement faire preuve d'intelligence pour neutraliser les extrémistes des deux côtés. Parce que la population actuellement ne lui est pas favorable. Donc comment pouvez-vous admettre justement, Pierre, qu'après trois prises de pouvoir de la dame qui était justement produite par
alors,
le monde, qui est encore...
La ligne se dégrade quelque peu, Karl. On va essayer de rétablir tout cela hors antenne. Et en attendant, je voudrais qu'on accueille Galvani de Mbujimaï en RDC. Galvani, bonjour.
Oui, bonjour Pierre, bonjour à tous.
Alors vous estimez que le premier bilan de l'action de Catherine Samba-Panza à la tête des autorités de transition est positif?
Oui, bon, j'estime cela. Je crois que le bilan de Madame la Présidente est relativement positif.
vu d'abord l'état dans lequel elle avait pris la commande de la RCA et aussi la situation actuelle maintenant qui semble quand même évoluer par rapport au règne de Monsieur Michel Biotodia. Bien sûr, je peux prendre aussi, il y a quand même la reprise quand même du championnat de football, qui est aussi un vecteur aussi de la réconciliation nationale. Parce que vous voyez que non, lorsque dans un match de football, les chrétiens et musulmans peuvent se rencontrer et soutenir aussi une même équipe. Et aussi, c'est un vecteur de réconciliation nationale. Sur le plan aussi de la sécurité, bien sûr, l'État est relativement un peu bon, dubitatif, mais c'est pas dans 3 mois quand même on doit rétablir la sécurité nationale. Vous savez que l'État, la République centrafricaine a connu des graves crises et ce n'est pas en 3 mois qu'on va rétablir cette sécurité. Il faut encore du temps, on doit encore l'accorder du temps pour qu'elle puisse bien vraiment mettre sa marge de politique comme ça.
Oui. Arnold nous appelle de Belgique, de Halle. Bonjour Arnold.
Bonjour Pierre.
Alors vous avez un regard, vous estimez que ce bilan est plutôt mitigé, hein?
Oui, c'est mitigé. D'abord, je félicite l'Assemblée nationale centrafricaine d'avoir choisi une femme. C'est un honneur. Apparemment, c'est une femme qui a l'autorité, qui apparaît courageuse, intelligente et capable d'assumer ses responsabilités. Mais malheureusement, j'ai l'impression qu'elle est très très mal entourée. Elle n'a pas un entourage qui peut l'aider à cibler les actions qu'il faut, poser sur le terrain. La première défaillance que j'aimerais faire remarquer, c'est que les non-aboutissements de l'enquête devant identifier les auteurs des crimes perpétrés sur les chrétiens lors d'une veillée mortuaire à Bangui, et cette enquête n'a jamais abouti. Or, je crois que les enquêteurs des Nations Unies ont pu établir que c'était les troupes de tchadiennes qui ont perpétré ces crimes-là. Et je crois qu'elle devait, en ce moment-là, en tant que responsable, elle est la présidente, elle est le chef des forces armées, elle devrait saisir immédiatement le procureur général pour se mettre en contact avec le commandement de Misca pour identifier ces gens-là.
Quoi qu'il en soit, le Tchad a retiré son contingent de la Misca après cette affaire.
Oui, le Tchad a fait échapper donc le criminel, parce que maintenant qu'ils sont sur le territoire tchadien, ça sera impossible de pouvoir mener les actes d'instruction, à moins qu'on puisse former une commission rogatoire qui doit se rendre au Tchad pour pouvoir mener des enquêtes. Maintenant, ça ne sera plus possible. Donc là, c'est une défaillance vraiment remarquable.
Alors Arnold, vous estimez que la présidente est mal entourée. Que devrait-elle faire, selon vous? Peut-être un remaniement? Qu'est-ce qu'il faudrait faire, à votre avis?
Non. Elle doit se dépasser. Il ne faut pas qu'elle se gêne. Quand elle a de telles responsabilités, elle n'a pas beaucoup d'expérience en matière de sécurité, elle devrait s'entourer d'un état-major des conseillers français et de la République centrafricaine. Et il devrait avoir donc des conseillers de services de renseignement militaire qui devront établir un plan et un programme avec des objectifs ciblés pour le démantèlement de milices. Si elle ne le fait pas, elle n'aboutira jamais, elle n'arrivera jamais à démanteler les milices et l'insécurité va continuer en République centrafricaine. Donc, elle doit se dépasser, il faut qu'elle accepte que seule, elle ne sera pas en mesure de pouvoir le faire. D'accord. Et avec cette solution, il y a moyen d'intégrer les forces armées et de la République centrafricaine dans l'opération Sangari, sous le commandement de Sangari, parce qu'actuellement, la République centrafricaine n'a pas un budget pour pouvoir restaurer l'armée. Il faut le reconnaître. Il faut reconnaître ses capacités. Qu'elle ne se jette pas, disons, sur des solutions de hasardeuses. Et la preuve en est qu'elle a tenté de faire quelque chose, mais ça a échoué. Donc elle doit s'entourer des experts français et des experts de la République centrafricaine, parce que je sais qu'elle a tout ce monde-là autour d'elle.
Merci Arnold. Je voudrais qu'on accueille maintenant Hervé. Hervé, vous êtes centrafricain et vous nous appelez de Marseille. Bonjour.
Bonjour Pierre Pinto et merci de m'accueillir.
Alors vous êtes assez critique hein, sur l'action de Catherine Samba-Panza.
Oui, ben pour moi le bilan est globalement négatif. Hein. Déjà au niveau de la composition du gouvernement, j'ai comme l'impression que il y a trop de népotisme et donc dans le gouvernement il n'y a pas d'équilibre régional, hein, d'équilibre géopolitique. Ensuite, il aurait fallu exclure tous les groupes armés du gouvernement, et c'est les Kayanti Balaka, et recomposer le Parlement de transition où on aurait pu intégrer peut-être quelques anti-Balaka et les exclure carrément du gouvernement. Après, au niveau de la réconciliation, je suis déçu de l'action de Madame Samba-Panza. Bon, il n'y a que 3 mois. Mais il aurait fallu qu'elle aille en contact de la population au lieu de rester tout le temps dans son palais. Je trouve que, par exemple, les villes sinistrées, elle n'a fait aucun déplacement. Le seul déplacement qu'elle a eu à faire, c'était d'accompagner le ministre français de la Défense quand il était, lors de son dernier passage en Centrafrique, ils sont partis ensemble à Mbaïki. Donc, voyez-vous, donc, sur ces 2 points-là, je pense que qu'elle a carrément échoué. Bon, après, au niveau de la sécurisation, je veux tout simplement fustiger la communauté internationale qui demande à cette dame de restaurer l'autorité de l'État tout en lui imposant un embargo sur les armes.
Il faudrait, selon vous, donc lever l'embargo pour permettre aux autorités de transition de reconstituer l'armée, c'est bien cela ?
Ben oui. Voyez-vous, par exemple, quand Madame Samba-Panza se rapproche auprès de la MISCA pour demander des services de sécurité, on va lui dire à chaque fois, ben on n'est pas sous vos ordres, Madame. Bon, comment voulez-vous à ce moment-là qu'on restaure l'autorité de l'État ? C'est infaisable.
Ouais. Urbain, je voudrais qu'on accueille Urbain pour vous répondre, qui nous appelle de région parisienne. Bonjour Urbain.
Bonjour. Je suis d'accord avec mon compatriote là. Effectivement, s'il s'agit d'accuser la dame ou bien faire son bilan de 100 jours, moi je trouve que c'est vraiment normal. Parce que pour le moment, elle est là comme présidente, mais elle n'a pas de pouvoir.
Elle n'a pas assez de marge de manœuvre, selon vous ?
Voilà, elle n'a pas assez de marge de manœuvre. Donc, pour faire son bilan, surtout en négatif, ce n'est pas normal, quoi. Et certains compatriotes qui parlent d'abord de remaniement ministériel, mais le nouveau ministre, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils ne vont rien faire. Donc, ce que moi, je propose, c'est surtout limoger les 2 ministres qui sont au gouvernement. Les 2 ministres militaires qui sont au gouvernement. Ministre de l'Intérieur.
Selon vous, un remaniement ne servirait à rien. Il faut maintenir l'équipe en place ?
En place, mais enlever les 2 ministres militaires qui sont au gouvernement. Parce que si on est là aujourd'hui, le premier responsable, c'est le militaire qui nous a amenés jusqu'à là. Donc, au lieu de mettre 2 ministres, le ministre de la Défense, qui est militaire, et le ministre de l'Intérieur, qui est militaire, vaut mieux le ramener à la caserne, comme ça, il cherche à aller au terrain. On a besoin de militaires. On n'a pas besoin de militaires au ministère.
Hervé, vous êtes toujours là ? Hervé,
une minute, s'il vous plaît.
Oui. Hervé, vous êtes toujours là ?
Oui, je suis toujours là.
Vous avez entendu ce qu'a dit Urbain, vous êtes d'accord ou non ?
Bon, pour les militaires, je ne sais pas vraiment. Bon, en fait, au départ, Madame Samba-Panza a voulu mettre en place un gouvernement technocrate. Dans des situations comme ça, il faut quand même des politiciens, des gens qui puissent expliquer la politique. Par exemple, au niveau de la diplomatie, j'ai comme l'impression que c'est une diplomatie morte. Au lieu d'être une diplomatie active qui explique les choses, par exemple, pour le cas de l'armée, qui a subi les mêmes traumatismes que la population civile, il faut mettre en place, je ne sais pas moi, des cellules psychologiques pour évaluer qui on peut... il faut faire le tri pour qu'on réarme cette armée et pour qu'il contribue aux côtés de la MISCA et de la MINUSCA qui va arriver, hein, les casques bleus, pour restaurer la sécurité. Voyez-vous, au Soudan, il y a les casques bleus, mais ça n'a jamais résolu le problème.
La sécurité, c'est vraiment la préoccupation principale dont vous nous avez fait part ce matin. Merci d'avoir suivi Appel sur l'actualité. Demain, nous parlons de l'Afrique du Sud.
Appel sur l'actualité vous a été présenté par Orange Monnaie, transfert d'argent et paiement de facture.